sœur Diane, bonjour, ravie de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous allons finir hein, ce mois-ci le livre que vous aviez commencé, le livre de la sagesse de Salomon.
Oui, alors la sagesse de Salomon, troisième partie. Nous avions vu dans la première partie une chose assez radicale, la vie ou la mort. Nous sommes faits pour l'immortalité, mais ceux qui ne suivent pas le Seigneur sont en grave danger de mort. Avec des paroles très modernes, les insensés, les non-croyants disent notre souffle va disparaître après notre mort, profitons de la vie, écrasons le pauvre. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons vu le roi Salomon qui demandait la sagesse avec beaucoup de paroles d'éloge de la sagesse. C'est une prière magnifique, la prière de Salomon. Et dans la troisième partie, maintenant à partir du chapitre 10, nous avons la sagesse dans l'histoire. Donc l'auteur relit un peu la Bible, l'histoire du salut. Donc brièvement, en passant par Adam, Moïse, l'Exode et assez en détail les plaies d'Égypte. Et c'est une manière originale de relire la Genèse et l'Exode, parce qu'elle est réinterprétée, comme souvent dans la Bible, il y a beaucoup de réécriture, de réinterprétation selon l'époque à laquelle l'auteur s'adresse. Et c'est réactualisé en fait à chaque fois. Donc, on ne va pas tout lire parce que 10 chapitres, c'est un peu beaucoup, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant parce que de toute façon, les chapitres 10, même presque tous les chapitres, il faut bien connaître la Bible parce que il y a une allusion à Adam dans le verset 1 du chapitre 10, mais il n'y a même pas son nom. Vraiment, il s'adresse à des gens qui connaissent la Bible par cœur. Et ce n'est pas notre cas. Donc, je passe au chapitre 13, parce qu'il concerne particulièrement l'idolâtrie, puisqu'on est en plein texte qui parle de l'Égypte. Donc, je vais commencer à lire quelques passages. Oui, vraiment vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui en considérant les œuvres n'ont pas reconnu l'artisan. C'est le feu ou le vent ou l'air rapide ou la voûte étoilée ou l'eau impétueuse ou les luminaires du ciel, princes du monde, qu'ils ont considérés comme des dieux, comme si, charmés par leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Alors, Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit des choses un peu semblables, même il est très 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 sévère pour ceux qui ne savent pas reconnaître Dieu dans ses œuvres. Bon. Le catéchisme de l'Église catholique, si je me souviens bien, je ne connais pas par cœur, mais nous dit des choses un peu plus modérées, comme quoi on peut reconnaître l'existence de Dieu dans ses œuvres, mais on ne peut pas connaître Jésus. On a le pressentiment, l'évidence peut-être même qu'un Dieu existe pour créer tout cela, mais on n'a quand même pas toute la révélation d'un seul coup avec. Hein. Donc, c'est par la beauté des œuvres de Dieu qu'on reconnaît qu'il y a un créateur. Alors, on va avoir une progression. Ceci, toutefois, ne mérite qu'un blâme léger. Peut-être, en effet, ne s'égare-t-il qu'en cherchant Dieu et en voulant le trouver. Versé dans ses œuvres, il les explore et se laisse prendre aux apparences tant ce qu'on voit est beauté. Et pourtant, eux non plus ne sont pas pardonnables. S'ils ont été capables d'acquérir d'acquérir, pardon, assez de science pour postuler l'unité du monde, comment n'en ont-ils pas plutôt découvert le maître? Ils sont excusables, mais enfin pas trop pardonnables quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions dans le monde, enfin différentes religions, où il y a des esprits partout, l'animisme par exemple, ou l'hindouisme, enfin bref. Beaucoup de choses sont des dieux, mais c'est une recherche de Dieu qui est respectable, mais ils n'ont pas découvert le vrai Dieu. N'ont pas découvert le Dieu créateur, le Dieu unique. On les excuse un petit peu. Donc, après, malheureux sont-ils avec leurs espoirs mis en des choses mortes, ceux qui ont appelé Dieu des ouvrages de main d'homme, or, argent taillé avec art, figures d'animaux ou pierres inutiles, ouvrages d'une main antique. Et là, on va avoir une jolie histoire qu'on retrouve pas tout à fait texto dans le livre d'Isaïe au chapitre 44, mais qui ressemble. C'est un peu humoristique en même temps. Et voici encore un bûcheron. Il scie un arbre, facile à manier. Il encercle soigneusement toute l'écorce. Il le travaille avec adresse. Il en forme un objet propre aux usages de la vie. Quant aux déchets de son travail, il les emploie à préparer sa nourriture et il se rassasie. Le déchet qui en reste et qui n'est plus bon à rien, un bois tordu et poussé tout en nœuds, il le prend et le sculpte avec application des heures de loisir. Il le façonne avec le savoir-faire des instants de détente. Il lui donne une figure humaine ou bien il le fait semblable à quelque vil animal. Le recouvre de vermillon, enrougit la surface à la sanguine, recouvre d'un ennui toutes ses tâches, puis il lui fait une niche qui lui convienne, le place dans un mur et l'assure avec du fer. Ainsi veille-t-il à ce qu'il ne tombe pas, sachant bien qu'il est incapable de s'aider lui-même, car ce n'est qu'une image, il a besoin d'aide. Et pourtant, s'il veut prier pour ses biens, son mariage, ses enfants, il ne se rougit pas d'adresser les paroles à cet objet sans vie. Pour la santé, il invoque ce qui est faible. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour un secours, il supplie ce qui a le moins d'expérience. Pour un voyage, ce qui ne peut même pas se servir de ses pieds. Pour un gain, une entreprise, le succès du travail de ses mains. Il demande de la vigueur à ce qui n'a pas la moindre vigueur dans les mains. Alors, on a une belle description de la bêtise humaine, puisque celui qui fabrique un objet est forcément supérieur à l'objet qu'il fabrique. Et il le prend pour un dieu. Et la description, il a besoin d'une grille pour se tenir, il ne peut pas marcher, enfin bref. C'est vraiment bien détaillé, comme dans les psaumes. Les idoles, elles ont une bouche, elles ne parlent pas, des oreilles n'entendent pas, des yeux ne voient pas. Ça revient assez souvent. Bon, là, on a grimpé un peu dans l'échelle de gravité de l'idolâtrie et on continue. Tel autre qui prend la mer pour traverser les flots farouches invoque à grands cris un bois plus fragile que le bateau qui le porte. Car ce bateau est la soif du gain qu'il a conçu, c'est la sagesse artisane qui l'a construit, mais c'est ta providence, ô Père, qui le pilote. Car tu as mis un chemin jusque dans la mer et dans les flots un sentier assuré, montrant que tu peux sauver de tout. En sorte que même sans expérience, on puisse embarquer. Tu ne veux pas que les œuvres de la sagesse soient stériles, c'est pourquoi les hommes confient leur vie, même à un bois minuscule, traversent les vagues sur un radeau et demeurent sains et saufs. Et de fait, aux origines, tandis que périssaient les géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau et piloté par ta main, laissa au siècle futur le germe d'une génération nouvelle. Alors là encore, on a une allusion à un épisode de la Bible, Noé qui construit un bateau. Bon, là, il pousse un peu loin le contraste en faisant de l'arche de Noé un radeau, pour bien montrer que c'est le Seigneur qui donne la vie et qui a tracé le chemin dans les eaux et qui a décidé qu'il allait sauver l'humanité à travers Noé pour une génération nouvelle. Par contre, l'idole qu'on invoque pour prendre un bateau, donc au début du chapitre 14, c'est souvent la figure de proue. Il y a une sculpture de dieu ou de déesse à l'avant du bateau et c'est celle qu'on invoque. Mais rien à voir avec la puissance de Dieu. Je poursuis. « Car il est béni le bois par lequel parvient la justice, mais maudite l'idole fabriquée, elle et celui qui l'a faite, lui, pour y avoir travaillé et parce que, corruptible, elle a été appelée Dieu. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété, oui, l'œuvre sera châtiée avec l'ouvrier. » Alors, en travaillant un peu ce texte, j'ai été vraiment frappée par la gravité de l'idolâtrie. Et tout au long de la Bible, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu mène son peuple et combat l'idolâtrie, refait sans cesse l'alliance, et sans arrêt le peuple est tenté de vivre comme les nations, de retourner aux idoles, parce que c'est difficile de suivre la voie que Dieu leur a tracée, comme la nôtre est difficile. Jésus nous a dit que nous étions dans le monde, mais que nous n'étions pas du monde, et que nous devons aller à contre-courant de toutes les idées du monde qui sont des chemins de mort. Et Dieu, sans arrêt, nous remontre le chemin, ramène son peuple à lui. Il y a encore un degré supérieur à la gravité de l'idolâtrie, on va voir juste après. Alors là, c'est la zoolâtrie. Et on parle toujours de l'Égypte. En Égypte, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient idolâtrés, qui étaient des dieux. Ça se passe au chapitre 15, verset 14. « Mais ils sont tous très insensés et plus infortunés que l'âme d'un petit enfant, ces ennemis de ton peuple qui l'ont opprimé. En effet, ils ont tenu aussi pour Dieu toutes les idoles des nations qui n'ont ni l'usage des yeux pour voir, ni de narines pour aspirer, ni d'oreilles pour entendre, ni de doigts aux mains pour palper, et dont les pieds ne servent à rien pour marcher, car c'est un homme qui les a faits, un être au souffle d'emprunt qui les a modelés. Nul homme, en effet, n'est capable de modeler un Dieu qui lui soit semblable. Mortel, c'est une chose morte qu'il produit de ses mains impies. Il vaut mieux, certes, que les objets qu'il adore. Lui, du moins, il aura vécu. Eux, jamais. Et ils adorent même les bêtes les plus odieuses, car en fait de stupidité, ils sont pires que les autres. Et pour autant qu'on puisse éprouver du désir à la vue d'animaux, rien de beau ne s'y trouve. Ils échappent à l'éloge de Dieu et à sa bénédiction. » Alors là, adorer les animaux, c'est vraiment la pire des stupidités. Ça peut nous poser question quand on voit comment on considère les animaux quelquefois de manière assez exagérée, à l'égal de l'homme ou supérieur aux hommes, l'homme étant plutôt un trouble fait dans la création. De même que l'amour de la nature peut être aussi exagéré, on peut magnifier la nature de manière tout à fait déplacées. Ces textes peuvent nous poser des questions sur nos propres attitudes, l'attitude de nos contemporains, et comment voir les choses de manière juste, selon l'Esprit de Dieu, selon notre Seigneur. J'aimerais revenir un tout petit peu avant. Avant le chapitre 13, pour souligner la bonté de Dieu. Dieu punit avec modération. Bon, l'idée de punition, pour nous, c'est insupportable à notre époque. Quoique, dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que celui qui n'est pas corrigé par son père est un bâtard. Donc Dieu nous prend pour ses enfants, donc il doit nous donner des leçons pour le bien, pour nous corriger, et pas à la manière d'un Dieu vengeur et méchant comme dans certaines littératures des siècles précédents. Alors, leçon donnée par Dieu à Israël, en agissant ainsi, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être ami des hommes. Et tu as donné le bel espoir à tes fils, qu'après les péchés, tu donnes le repentir. Car si ceux qui étaient les ennemis de tes enfants et promis à la mort, tu les as punis avec tant d'attention et d'indulgence, leur donnant temps et lieu pour se défaire de leur malice, avec quelle précaution tu n'as pas jugé tes fils, toi qui par serment et alliance a fait à leur père de si belles promesses. Ainsi, quand tu châties nos ennemis avec mesure, tu nous apprends à songer à ta bonté quand nous jugeons et quand nous sommes jugés, à compter sur ta miséricorde. Alors, à travers tous ces textes, nous voyons la bonté, l'amour de Dieu. Avec quel amour le Seigneur cherche à faire revenir ses enfants vers lui, et même ceux qui ne sont pas ses enfants, puisque ces étrangers qui ont mis en esclavage son peuple ont aussi droit à une indulgence, attention et indulgence, pour qu'ils puissent se convertir. Et j'ai pensé aussi à des très beaux textes où Dieu se montre un père, une mère ou un époux. Par exemple, dans le livre d'Osée, nous avons à deux reprises la bonté du Seigneur, sa tendresse paternelle au chapitre 11, que je vais citer parce que c'est vraiment très très beau. « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal, donc aux idoles, et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire marcher. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment. Je saute quelques versets. Vais-je t'abandonner, Ephraïm, te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas sur l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu, non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Dieu qui se montre un père plein de tendresse. Et dans le même livre d'Osée, au début du livre, c'est Dieu qui rappelle son épouse infidèle. C'est le chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles. Je ferai du Val d'Accor, la porte de l'espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Et ce jour-là, oracle du Seigneur, voilà ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'éloignerai de ses lèvres les noms des Baals. On ne prononcera plus leurs noms. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel, les bestioles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays et ses habitants. Je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Quand tout va bien, quand nous retournons vers le Seigneur, la nature va bien, c'est extraordinaire. Et cette idolâtrie qui détruit le monde, elle est beaucoup plus difficile à cerner à notre époque. Peut-être que justement ce temps de carême, c'est un temps privilégié pour dépister toutes ces idoles qui sont autour de nous dans le monde, ces choses qu'on cherche à nous imposer, qui sont bien cachées dans nos vies. Bon, nous savons bien qu'une idole facile à trouver, c'est l'argent. Mais il y a toutes ces idéologies qui détruisent la vie, qui sont des chemins de mort, comme ce chemin qui nous avait été expliqué dans les premiers chapitres du livre de la sagesse de Salomon. Ces chemins de mort, il faut bien se souvenir que les dieux exigeaient, enfin, les hommes pensaient que les dieux exigeaient qu'on leur sacrifie des enfants. On jetait des bébés dans le feu, dans la vallée de la Géhenne, à Jérusalem, à certaines époques. Et nous, dans quel feu est-ce que nous jetons les enfants à notre époque? Et ils souffrent, les enfants souffrent, les jeunes souffrent du manque de sens de leur vie. Et ils sont vraiment dans le feu du monde. Et nous-mêmes, nous avons un certain nombre d'idoles de complaisance avec des idéologies de mort. Nous sommes tellement baignés dedans que beaucoup de chrétiens cèdent à la tentation de les suivre. Tout ce qui est euthanasie, avortement, etc., etc. Alors ce sujet de l'idolâtrie qui m'a quand même frappé en plein cœur en travaillant la Bible, l'idolâtrie dans notre monde actuel, c'est faire soi-même la vérité. Je suis mon propre Dieu parce que je choisis tout et je décide de tout. Je peux être à la limite un homme ou une femme comme je veux, je peux mourir quand je veux, je peux décider de tout dans ma vie, de la vie d'un enfant pour une femme qui est enceinte, ou je peux décider de vraiment tout, et c'est vraiment dramatique parce que c'est le péché d'Adam et Ève qui ont voulu devenir Dieu à la place de Dieu, ce que le serpent leur avait promis, l'avait menti, choisir de décider quelle est la connaissance, du bien ou du mal, décider ce qui est bien, ce qui est mal, et comme ça bafouer complètement le Créateur. C'est un orgueil immense. C'est même difficile quelquefois de programmer quelque chose parce que Oui, je dis oui. Et puis le lendemain, je dis, ah ben non, il y a autre chose qui m'intéresse plus. Je décide au mépris de toutes mes promesses. Donc, quand on vit sans Dieu, on brûle sa vie, comme je l'avais cité tout à l'heure. Mangeons, buvons, que demain nous mourrons et nous n'aurons plus, profitons de la vie, de nos orgies et de nos buveries, etc. Et il ne restera de rien de nous. Profitons-en. Et c'est en fait, c'est vivre sans idée de la vie éternelle ou de l'immortalité. C'est quand même dramatique. Ce qu'il y a aussi dans l'idolâtrie, c'est pa le parallèle, c'est l'adultère. Donc, Dieu étant l'époux de son peuple en même temps que son père et sa mère, aller vers d'autres dieux, c'est trahir Dieu. C'est choisir l'idolâtrie dans un couple, c'est choisir de bafouer l'autre et de s'occuper que de soi. C'est pour ça que c'est profiter plutôt que de donner. Profiter des autres, profiter de la vie sans rien donner. Et c'est trahir. Donc avec Dieu, c'est la même chose. C'est pour ça que ces deux commandements sont mis en parallèle dans beaucoup de moments dans de la Bible. Bon, je vous laisse toutes ces réflexions. On pourrait dire encore bien des choses, mais
Toutes ces
le
réflexions
sujet
juste,
n'est pas
oui.
léger. Donc,
Non, le sujet est grave.
c'est d'une grande gravité qui est loin de tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on ira tous au paradis.
Ce n'est pas
Voilà, c'est.
l'évangile, en effet. Ce n'est
Je suis
pas
un peu
l'évangile.
confuse, mais je suis un peu émue aussi par le sujet.
Chers auditeurs, c'était notre émission Bible et Sagesse. Vous étiez avec Sœur Diane. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.